Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du Grand Fauve et pour cette dernière émission de l'année, un mythe du sport automobile, Enzo Ferrari. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là, l'œil du tigre mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Et alors monsieur Ferrari, aujourd'hui quels sont vos espoirs?
Il faut savoir attendre.
Et oui, il faut savoir attendre. C'est la sagesse du vicaire de la vitesse. Attendre son heure, attendre son tour, tout vient à point à qui sait attendre. C'est peut-être la martingale d'Enzo Ferrari, légende du sport mécanique dont le destin épouse l'histoire de l'Italie au XXe siècle. Ce gosse d'Emilie Romagne, qui a dédié toute sa vie à la course automobile, savait sans doute mieux que personne que l'accélération est aussi une affaire de ralentissement. Et dans ce 21e siècle, où tout va très vite, trop vite peut-être, Enzo Ferrari nous dit en creux qu'il faut aussi savoir ralentir. C'est en décembre 1929, il y a donc 90 ans ce mois-ci, qu'Enzo Ferrari a créé la Scuderia, une des plus grandes écuries du sport automobile au XXe siècle, avec 16 titres de champion du monde. Un anniversaire qui nous offre l'occasion ce soir de revenir sur le destin hors norme de ce gamin de Modène, avec deux invités au micro d'Inter. D'abord, il est écrivain et journaliste italien, Alberto Toscano, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, il est historien, fin connaisseur de l'Italie et ami de cette émission, Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et comme d'habitude, bienvenue chez toi. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, le destin du sorcier de Maranello, Enzo Ferrari.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine, en préambule, on débute avec une romancière française, Françoise Sagan, adepte des bolides, on le sait, et en particulier des voitures de sport inventées et produites par Enzo Ferrari. Voici donc Sagan, en 1967, qui nous cause de sa vieille California d'occasion et de sa rencontre avec Enzo Ferrari lui-même.
Enzo Ferrari aime à recevoir lui-même les personnalités qui n'entrent pas dans sa classification et veulent lui acheter une voiture. Ainsi, Françoise Sagan.
C'est une voiture géniale, elle ne quitte jamais la route, elle est cramponnée à la route. La mienne se conduit comme un jouet, enfin, de doigts comme un vélo. Elle m'a tiré de beaucoup de mauvais pas. Ben, si on prend un virage un peu trop vite avec une voiture ordinaire, on peut se faire très mal. Quand il faut doubler un camion assez vite avec une voiture qui va doucement. On met trois fois ou quatre fois le temps que met la Ferrari. C'est une voiture très sûre, finalement, si on sait la conduire. La nuit, en août, l'été, c'est parfait, mais à Paris, la journée, c'est strictement impossible.
Vous avez acheté votre voiture en France?
J'ai acheté en France, oui, d'occasion. Oui. C'est une California, c'est un modèle qui doit avoir 4-5 ans maintenant, ou peut-être plus, je ne sais pas.
Et vous m'avez dit que vous aviez voulu acheter une Ferrari neuve. Vous êtes donc allé en Italie et vous avez rencontré Ferrari.
C'est ça, alors il m'a fait essayer une voiture d'abord dans la montagne. Et puis après, on est allé sur le circuit, vous savez, je crois que c'est à Modène, le circuit de course, avec une Tétarossa qui allait à 300 à l'heure. Et je faisais signe de croix, absolument, une péto tout le temps. Moi, j'étais terrorisée, mais enfin, fascinée, c'était très joli. Et lui m'a paru un homme charmant, très intelligent et très, très agréable.
Est-ce que vous avez laissé une impression particulière?
Il m'a paru un homme triste, vous savez, à cause de... Il m'a parlé de la mort de son fils, Dino.
Oui.
Et on sentait que tout l'atelier, tout son bureau était consacré à ce souvenir. Il m'a paru un homme assez frappé dans la vie, un homme qui a vu des catastrophes. Mais à la fois, on sent qu'il a une passion pour son métier.
Just a little. You're supposed to
never had it, no, you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sting in single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth hurts, needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts, needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be.
Truth Hurts, chanson signée Lizzo, une jeune rappeuse de Detroit, Michigan. On file maintenant en Italie. Voici l'histoire du dimanche soir. Mobilisé dans les troupes italiennes lors de la Première Guerre mondiale, Enzo Ferrari fut affecté au ferrage des mulets. Le jeune homme de Modène a donc commencé comme maréchal ferrant, lui qui va devenir le patron d'une écurie légendaire, la Scuderia, dont le cheval cabré, lui aussi lié à la guerre de 14, on y reviendra tout à l'heure, est devenu l'icône mondiale que l'on sait, ce cheval cabré. La vie d'Enzo Ferrari ressemble à une chanson de geste, une mythologie où l'on croise des roses rouges, des chrysanthèmes jaunes et toute une ribambelle de surnoms et d'adjectifs.
On l'a appelé le grand vieillard, le magicien, le Richelieu de l'automobile. On l'a dépeint comme quelqu'un d'orgueilleux, de dur, de misanthrope, d'impulsif et de méfiant. L'Osservatore Romano a parlé de lui comme d'un Saturne de notre temps qui ne cesse de dévorer ses enfants. Grandeur et malheur d'un personnage digne de Verdi. En Amérique, il est l'Italien le plus célèbre avec Christophe Colomb et Pinocchio. Il était né en 1898 dans la campagne émilienne. Des plaines fertiles, des routes flanquées de peupliers à perte de vue. Des gens qui ont le goût du défi et de la révolte, tempérés par la passion de la bonne chair et du bel canto. Lui, l'ingegnere, il commendatore, il cavaliere, entré de son vivant dans la légende, disait tout simplement « Je suis quelqu'un qui a rêvé d'être Enzo Ferrari ».
C'était la voix de Francesca Isidori sur France Culture en 1994. Alberto Toscano, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et amateur de sport. Vous êtes né en 1948 dans le Piémont, vous êtes donc un enfant de l'après-guerre. C'est important parce que c'est une époque où Ferrari va sans doute exploser au niveau mondial. Pour commencer, en quelques mots, Alberto, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Enzo Ferrari, en tant qu'Italien, ce soir autour de la table?
Bon, un mythe, sans doute.
Un mythe, oui.
Aussi le symbole d'une volonté de relancer l'Italie après la guerre. Et si vous imaginez le fait qu'au salon de l'auto de 46 à Paris, ils ont empêché à tous les constructeurs, et même à Pininfarina, le carrossier, d'exposer leurs modèles. D'ailleurs, Pininfarina les exposait à l'extérieur du Grand Palais où il y avait le salon de l'automobile, et comme ça, il avait encore plus de visibilité. Donc, c'était une période où l'Italie, après la guerre, était marginalisée. Et on pouvait parfois le comprendre, à cause de l'attaque lâche que Mussolini a portée à la France en juin 40. Mais cette Italie avait besoin de mythes et d'expressions de cette volonté de reconstruction, de se relancer. Et Ferrari ainsi que d'autres capitaines d'entreprise, ont exprimé ce désir. Et je souligne le fait que Ferrari, comme d'autres, ne sont pas fils d'aristocrates ou de grands riches bourgeois. Son fils de chef d'usine, d'ex-ouvriers, comme le père de Ferrari, qui ont créé leur propre usine, dont ils se sont enrichis, mais en partant d'une condition d'ouvrier. Et voilà le secret de cette nouvelle Italie.
Très bonne première réponse d'Alberto Toscano. Fabien Archambault, vous êtes vous historien, fin connaisseur de l'Italie. On l'a entendu dans le son d'archi. Fabien, aujourd'hui, c'est vrai que sa notoriété est aussi grande que celle de Pinocchio ou de Christophe Colomb. C'est assez incroyable. Pour quelle raison, selon vous, Fabien?
C'est en partie, à mon avis, parce que il est dans l'automobile, qui est le secteur moteur de la seconde industrialisation qui commence à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et là, cette fois-ci, l'Italie, qui est un pays rural majoritairement, ne rate pas le coche. Et finalement, ça raconte l'ascension d'Enzo Ferrari et de la Scuderia. Ça raconte comment l'Italie devient une grande puissance industrielle tout au long du 19e siècle. Et d'un point de vue sportif, comme le disait Alberto, dans l'après-guerre, il faut non pas remettre l'Italie dans le camp des vainqueurs, mais faire oublier qu'elle a été un pays vaincu. Et donc, il y a le cyclisme. Enfin, il y a l'équipe cycliste d'Italie avec Bartali et Coppi qui gagnent le Tour de France.
Bien sûr.
Il y a les grands clubs de Milan, l'Inter, le Milan AC, qui gagnent la Coupe d'Europe des clubs champions au début des années 60. Et il y a qui? Ferrari, qui participe à tous les championnats du monde, comme vous l'avez dit.
Et gagne des titres et des courses.
Et qui veut gagner dans toutes les courses importantes. Mmh. C'est-à-dire qu'au début des années 60, ils n'ont jamais gagné aux 24 heures du Mans. Mmh. On va aux 24 heures du Mans, on gagne 5 fois d'affilée.
Et oui.
Ensuite, on va à Daytona Beach pour les 24 heures aux États-Unis. Et à la fin de sa vie, dans les années 80, il n'a jamais gagné aux 500 miles d'Indianapolis, qui est la course la plus prestigieuse en automobile. Et il crée une voiture pour gagner les 500 miles d'Indianapolis. Mmh. Donc il y a l'idée de, il faut que la gloire de l'Italie s'impose sur tous les circuits automobiles du monde.
Alberto Toscano, on reprend depuis le début. Il est né en 1898 à Modène, dans le nord de l'Italie. Où grandit-il? C'est quoi? On parlait de son père tout à l'heure. Oui. Qui est son père? C'est quoi l'enfance au début du XXe siècle d'Enzo Ferrari?
Son père est né, comme je disais tout à l'heure, à Carpi, et donc en province de Modène, là où se trouve aussi Maranello.
Les usines Ferrari.
Les usines Ferrari. Et donc, il commence comme ouvrier, mais vraiment, il est important de comprendre ça pour interpréter l'Italie. Le capitalisme italien de l'après-guerre vient de l'expérience des meilleurs parmi les ouvriers qui commencent à créer leur propre entreprise. Et dans le cas de son père, c'est une entreprise mécanique qui travaille beaucoup pour le chemin de fer qui est en train d'être réalisé à côté. Et la chose importante est que pour Enzo Ferrari, il y a cette proximité avec la mécanique.
Avec la mécanique.
Et il dit, moi quand j'étais jeune, j'aurais pu devenir journaliste. Il a écrit un article dans la Gazette de Sport sur un match de football. Et à la fin, j'ai essayé de devenir pilote de voiture. Il a fait, en réalité, il a participé à des compétitions sans beaucoup de succès. Il n'était pas un grand pilote, mais il a appris cette passion, il a commencé cette passion pour le moteur et pour les compétitions automobiles.
En 1908, il a 10 ans, Enzo Ferrari, et il se pointe à Bologne sur le circuit automobile. Il est choqué, c'est un choc, il est fasciné par les courses automobiles. Il veut se frotter à ça, à la compétition automobile, mais voilà, 1916, son père et son frère meurent de la grippe, donc il se retrouve tout seul. Et puis, il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale. Il va donc être affecté au ferrage des mulets, donc il est maréchal ferrant. Donc, il repart quasiment de rien après-guerre. Qu'est-ce qu'il fait, Fabien Archambault, à l'issue de la Première Guerre mondiale, Enzo Ferrari?
Comme beaucoup de gens en Émilie, il émigre dans les grandes villes industrielles, donc à Turin, pour travailler justement dans l'automobile. Il veut rentrer à la Fiat, qui est la grande entreprise de l'automobile italienne. Et son père avait un ami à Modène qui connaît le directeur de la Fiat. Donc, il espère, avec cette recommandation, être engagé. Et le directeur de la Fiat le refuse. Donc, ce sera l'origine de rapports compliqués avec la Fiat en disant que la Fiat n'avait pas vocation à donner un emploi à tous les anciens combattants. Mmh. Donc, c'était une période difficile. Il est sans le sou. Il fait froid, Turin, l'hiver. Donc, et alors, finalement, il est employé dans une entreprise qui recycle des véhicules militaires.
Voilà.
Et c'est là qu'il devient un conducteur.
Oui, il devient un conducteur expérimenté exactement de vieux véhicules militaires. Il va devenir pilote, Alberto vous en parliez, en 1919. Il commence à courir un peu pour Alfa Romeo. Oui. Il va gagner quelques courses, un peu de prestige. Et là, il est reçu par une famille de noblesse italienne, la famille Baracca. Et la comtesse Paolina va lui faire un cadeau.
qui n'est pas rien, qui va devenir un symbole mondial. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau, Fabien Archambault ?
Eh ben, c'est le symbole que mettait son fils, Francesco Baracca, sur son avion.
Grand pilote de chasse.
Voilà, c'est la Première Guerre mondiale, il y a des héros de la Première Guerre mondiale.
L'As des As italien, oui. Mort à la fin de la guerre.
Voilà, il y avait, en Allemagne, il y avait le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, qui avait 80 victoires. Baracca, lui, c'était 34 victoires. Alors, lui était du régiment de cavalerie du Piémont, donc c'est pour ça qu'il avait mis un cheval cabré comme porte-bonheur sur son avion.
Son avion, voilà.
Donc il est mort et la comtesse revoit, donc elle est près de Ravenne, c'est là qu'il gagne ses premières courses, elle voit en lui son fils,
voilà.
Qui est mort, et donc elle lui offre, et lui 10 ans plus tard...
Qui a un chevron en fait, hein, voilà, c'est ça, chevron. Avec un cheval cabré. Donc.
Et donc lui ensuite le mettra sur ses voitures comme porte-bonheur et aussi pour gagner
les courses.
Voilà. Et alors il mettra donc ce cheval sur un fond jaune qui est une des deux couleurs de Modène, et avec un liseré tricolore. Donc les couleurs du drapeau italien qui montrent quelle automobile à ce moment-là, c'est à la fois aristocratique et très patriotique.
Et oui, bien
sûr. Il s'agit de faire gagner l'Italie.
Et oui, et donc c'est vraiment que naît là ce symbole que tout le monde connaît de Ferrari, ce cheval cabré sur
il cavallino rampante en italien.
Merci Alberto, c'est sublime. C'est sublime à entendre. Il va donc être pilote jusqu'en 1931, Enzo Ferrari, il va rester ensuite directeur sportif chez Alfa Romeo, mais entre-temps Alberto en 1929 en décembre, donc il y a 90 ans ce mois-ci, il va créer la Scuderia, qui est donc l'écurie en italien, qui est donc une sorte de succursale chez Alfa Romeo. Mais c'est un coup de génie, Alberto, parce qu'il va pouvoir là tester des moteurs, conseiller des pilotes. C'est là où en fait va naître son côté visionnaire, Enzo Ferrari.
Oui, son côté visionnaire, sa passion pour les moteurs commence à trouver une application concrète au-delà de son rôle de pilote. Mais le vrai saut de qualité est après la guerre, quand il crée l'usine Ferrari.
Et
donc, la Scuderia naît avant l'usine Ferrari, mais l'usine Ferrari créée juste après la Seconde Guerre mondiale est le développement logique de la Scuderia Ferrari. Finalement, on a les moteurs, les ingénieurs, mais on a aussi les capacités de production et dont une nouvelle perspective s'ouvre à la Ferrari.
Alors Fabien Archambault, le rôle de l'historien, c'est aussi de regarder le contexte, ce qu'il y a autour. Évidemment, cette première partie de la vie d'Enzo Ferrari fait écho au futurisme italien, hein, donc qui est un mouvement artistique, littéraire, pictural, qui, on va dire, promeut la civilisation urbaine, les machines, la vitesse. Donc on comprend bien que cette époque-là artistique de l'Italie permet aussi l'éclosion d'une légende comme Ferrari qui lui met au point des bagnoles qui vont très vite. Enfin, il y a un vrai écho entre Enzo et le futurisme.
Totalement, il s'inscrit dans cette culture futuriste. Alors d'ailleurs, le manifeste du futurisme, il est publié en 1909 par Marinetti à Bologne, donc juste à côté.
Tout à côté, Émilie-Romagne encore.
De Modène. Alors, en même temps, il n'est pas complètement futuriste, c'est-à-dire qu'il manque un des aspects de cette culture futuriste qui est le bellicisme, qu'on retrouve chez Mussolini, par exemple, qui en 1915, alors que l'Italie est neutre, pousse à l'entrée dans la guerre avec d'autres. Lui, Ferrari sera plutôt... Il rentre jamais, c'est pas un va-t-en-guerre, même en 40, sans dire qu'il est un pacifiste. Il préfère rester un peu... il est beaucoup plus attentiste de ce point de vue-là. Mais, en revanche, il est totalement dans cette culture de l'Italie moderne. Hein. Mussolini qui fait président du Conseil, qui en 1924 va de Milan à Rome en voiture, pour montrer qu'il incarne cette Italie.
De la modernité,
veut,
entre guillemets.
Industrielle. Et l'étape à Modène, on demande à Ferrari... de conduire, d'ouvrir le cortège, parce que c'est lui le pilote.
Bien
la
sûr,
voiture
Alberto.
Est le symbole de la modernité. Elle est aussi pour Proust, d'ailleurs, qui chante la gloire de la voiture, pour tous les intellectuels, en plus que pour les politiques et pour les entrepreneurs de cette époque. La voiture, elle est protagoniste de la nouvelle révolution industrielle.
Alberto, les années 20, les années 30 en Italie, Fabien en a déjà parlé, c'est évidemment le fascisme et l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Quel rapport a Ferrari avec le pouvoir mussolinien ? On le sent qu'il résiste aux pressions, on sent qu'il essaie de tenir à distance le pouvoir. En même temps, il est bien obligé de composer parce qu'il est là sur le terrain. Mais quel rapport a Mussolini et Ferrari ? Quel rapport ils ont ?
Plus que résister aux pressions, je dirais que l'expression la plus adaptée est garder des distances. Ferrari ne s'engage pas pour le régime, ne s'engage pas contre le régime. Après la guerre, d'ailleurs, Enzo Ferrari, on pense qu'il a eu une certaine sympathie pour le parti Movimento Sociale Italiano. Son fils l'a eu de façon explicite. Il a demandé d'être enterré avec une chemise noire. Le fils qui est mort très jeune,
à 24 ans. En 56, Dino.
Il était clairement sympathisant de Mussolini, qui était déjà mort, quand même, et de cette position politique. Il y a eu une grande prudence qui a été typique de beaucoup d'entrepreneurs italiens. Il ne s'est pas compromis. Il n'a pas combattu contre. Il a la logique, la politique, la religion d'Enzo Ferrari était l'entreprise, son entreprise, ses voitures, son mythe de course automobile. Déjà avant qu'il possède une entreprise. Donc ça, c'est sa logique. Je pense que c'est un choix qui n'est pas seulement le sien.
Fabien, pour compléter la réponse d'Alberto, c'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires de la Scuderia déjà, et que effectivement Mussolini aimerait bien récupérer Ferrari pour triompher sur des circuits mondiaux. Mais c'est vrai que Ferrari réussit, entre guillemets, à tenir à distance Mussolini.
Oui, c'est un notable. Donc il faut être bien avec le pouvoir politique, quel qu'il soit.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que, par exemple, en 1943, quand il sent que le vent tourne, donc Maranello, c'est là où, en fait, pendant la guerre, qui construit Maranello, qui est à 20 km au sud de Modène, sur les contreforts des Apennins, parce qu'il y a des bombardements, donc l'usine de Modène est menacée. Donc Maranello, c'est près des collines, c'est là où il y a les bandes des résistants. Il héberge des résistants, il y a des résistants blessés qui sont hébergés.
Dans les usines de Maranello.
Dans les usines de Maranello. Et il facilite les transactions financières du parti communiste clandestin. Et c'est pas innocent, c'est que, après la guerre, Modène est un des bastions électoraux du parti communiste. Donc il faut pas être mal avec eux. Mais en gros, il est plutôt apolitique. Et il compose avec ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là.
Oui. Alors, Modène est l'une des villes les plus rouges d'Italie. Probablement la plus rouge d'Italie.
La Seconde Guerre mondiale arrive, donc, ça va entraver son rêve, en tout cas, d'entrepreneur et de vainqueur de course automobile. Qu'est-ce qu'il fait pour clore cette première partie de cette émission? Qu'est-ce qu'il fait pendant la guerre, Enzo Ferrari? Alors, à part reconstruire Maranello en 43.
Alors effectivement, il est très déçu. C'est-à-dire pour lui, la guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus de course. Oui. Et donc c'est ça qui l'intéresse.
C'est la mouise.
Mais il se refait la pomme assez vite. C'est qu'au contraire,
il se refait la pomme.
la guerre, c'est le moment où l'entreprise croît énormément. C'est parce qu'il participe à l'effort de guerre. Il fait d'abord des moteurs d'avion, ensuite des pièces de rechange pour les véhicules militaires. Et l'usine de Maranello, au début de la guerre, il y a 40 ouvriers. Et on arrive à 300 employés en 1945. Donc en fait, ce qui lui donne le départ, c'est pendant la guerre qu'il change de taille.
Donc il s'est refait la pomme. Encore une usine de voiture.
Absolument. Donc il s'est refait la pomme pendant la guerre. J'adore cette expression. Allez, on va poursuivre notre causerie sur la vie d'Enzo Ferrari juste après le retour de l'orchestre sur Inter, emmené cette fois par Némir, flanqué d'Alpha One. Le titre joué sur ma vie. Ainsi soit-il.
Fini la 8-6, fini la fumette. C'est fini les bêtises, les clubs de striptease. Les femelles à lunettes. La migraine au réveil, j'ai la coupe d'un Bee Gees. Une haleine de fenêtre. Chez moi, ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges. Que j'ouvre plus les fenêtres. Je prends la vie comme un jeu. Mon ami, c'est comme un jeu. Sur ma vie, je prends la vie comme un jeu. Mon ami, je kiffe ma vie, donc j'écris sur ma vie. Donc j'écris sur ma vie. On m'appelle pas, on m'harcèle. Fais ça, fais si faut pas fléchir. Ça rend fou ma mère. Faut que je me bouge, mais là j'ai trop la flemme. J'hésite entre la cic ou la play. Comme un jeu sur ma vie.
C'est un secret pour les fouines et les connes. Je calcule pas les tweets et les connes. J'ai laissé ça comme la weed et l'école. Au réveil, je me demande quoi mettre. J'oublie que la vie a un goût amer. Cherche celle qui va mettre le sucre. J'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus. Je fais ça encore seulement. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches. Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus. C'est comme un parachute qui s'accroche mal. La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars. Chaussures turquoises, je porte mes costumes qu'une fois. Devine, je le jure sur quoi.
Sur ma vie, comme un jeu. Mon ami,
baisse. Ils diront tous que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Pour les miens, je vise le baisse. Ils diront tous que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire.
On ne les prépare pas n'importe comment. Conduire à près de 200 de moyenne pendant 24 heures, ce n'est pas une mince affaire sur un circuit somme toute assez difficile. Sur 49 voitures au départ, il n'en reste plus que 13 à l'arrivée.
L'œil du tigre.
Et c'est la Ferrari numéro 21 des Italiens Scarfiotti et Bandini qui gagne l'épreuve. Elle franchit la ligne d'arrivée suivie d'une grappe de 5 autres Ferrari, les grandes triomphatrices cette année des 24 heures du monde. 6 voitures en tête, le record battu à 190 de moyenne, la grande marque italienne est décidément imbattable dans les épreuves d'endurance pour voitures de sport.
Philippe Collin, sur France Inter.
Après la Seconde Guerre mondiale, Enzo Ferrari et sa Scuderia ont régné sur les épreuves d'endurance pour voitures de sport. Et c'est par la compétition et ses victoires que Ferrari est devenu l'un des constructeurs automobiles les plus célèbres au monde, avec un souci constant du progrès technique, une obsession du sorcier de Maranello.
Dans l'usine de Maranello, 40 spécialistes travaillent aux prototypes de course qui sont pour Ferrari d'indispensables facteurs de progrès.
La corsa, quando si tratta veramente di una corsa e non di uno spettacolo.
La course, quand c'est une course et non pas un spectacle, et j'entends par course Le Mans, qui est la plus grande du monde. La course est pour moi un indéniable facteur de progrès technique et de sécurité. Quand le commandeur Enzo Ferrari est de bonne humeur, il lui arrive de monter dans sa Gran Turismo et de la pousser jusqu'à 200 à l'heure sur les petits chemins de Maranello. À moins qu'il ne lui prenne la fantaisie d'abattre en 40 minutes les 137 km qui séparent Modène de Milan. Et pourtant, cet homme impavide a de curieuses manies. Il n'a jamais pris l'avion et ne monte jamais dans l'ascenseur.
Ah, la mia paura...
Ce n'est pas que j'ai peur de prendre l'avion. Ce que je redoute, c'est de ne pas pouvoir le prendre deux fois. Pour ce qui est de l'ascenseur, j'ai de bonnes raisons de ne pas l'aimer. En 1919, je suis arrivé juste à temps pour le départ de la Targa Florio parce que je suis resté enfermé pendant une heure et demie dans un ascenseur qui ne voulait pas descendre. Et pourtant, quand je ne peux pas faire autrement, il m'arrive de le prendre. Le commandeur n'aime pas non plus les journaux qui annonce périodiquement qu'il va se retirer de la compétition. Alors, si l'on vous dit que Ferrari renonce, n'en croyez rien, le sorcier de Maranello continue.
Alberto Toscano, je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste italien. L'après-guerre est une période très faste pour Enzo Ferrari. Prenons un exemple assez cocasse, 1955, le Grand Prix de Monaco. Le favori s'appelle Fangio, il court sur Mercedes. Mais le vainqueur de ce Grand Prix de Monaco, c'est Maurice Trintignant, l'oncle de Jean-Louis Trintignant, qui court sur Ferrari. Ce qui va conduire très vite l'immense Fangio à intégrer l'équipe Ferrari. C'est symptomatique, cette petite histoire, parce qu'en fait, à l'époque, rien ne lui résiste. Ferrari triomphe à tout niveau.
Et à ce moment, Ferrari commence à triompher.
Oui.
Elle est déjà lancée sur le marché de la production automobile et du commerce automobile. Et grâce aux courses, elle obtient un prestige extraordinaire mondial. Ford dit « Je suis jaloux de Ferrari parce que le lundi, toute la presse mondiale parle de lui et parle de ses voitures.
Et pas de Ford.
Et donc, c'était une publicité extraordinaire. Ferrari a aimé énormément deux pilotes dans sa carrière. Un est Nuvolari, qu'il a considéré le meilleur de tous les temps. Et l'autre,
qui est un pilote d'avant-guerre, hein, qui est un pilote de l'entre-deux-guerres.
Et l'autre, qui viendra beaucoup plus tard, est Gilles Villeneuve, qui était vraiment son chouchou. Il l'adorait. Et la mort de Villeneuve a été pour Ferrari vraiment un moment d'énorme tristesse. Et d'ailleurs, les attaques de la presse catholique à Ferrari ont été liés toujours au danger que ces pilotes couraient pendant les courses automobiles, et il était considéré quelque part responsable de la mort de certains pilotes. Mais alors, à ce point-là, il fallait interdire toute la course automobile, parce que, évidemment, malheureusement, il y a eu beaucoup d'incidents dans les années 50, 60 et plus tard.
Fabien Archambault, je rappelle que vous êtes historien de l'Italie. Pour rebondir sur ce que vient de dire là à l'instant Alberto, on parle de la mort de Villeneuve, par exemple. Bon, c'est vrai que la vie d'Enzo Ferrari est émaillée de morts. Notamment en 1956, il va perdre son fils unique, enfin à l'époque unique, parce qu'il y a eu un fils caché qu'on va découvrir ensuite. Mais donc Dino va mourir à l'âge de 24 ans en 1956. Il va rester profondément meurtri par ce décès, on l'imagine, Ferrari, tout au long de sa vie. Et c'est vrai que ce côté mortuaire, hein, ça en fait un personnage tragique au royaume de l'opéra, l'Italie. C'est un personnage d'opéra en réalité, Enzo Ferrari.
Oui, d'ailleurs, c'est quelqu'un de très pessimiste hein, de ce point de vue-là. Son autobiographie qui paraît dans les années 80, il l'appelle « Mes joies terribles ».
Ah oui.
Et alors il disait sur la fin de sa vie hein, qu'il aurait préféré naître orphelin. Comme ça, il n'aurait pas connu la douleur de perdre ses parents. Et il aurait préféré ne jamais se marier ou être impuissant pour ne pas connaître la douleur de perdre son fils. Mm-hmm. Donc, il disait qu'il pensait à son fils tous les jours, jusqu'au bout. Alors, ce qui est intéressant pour l'Italie, c'est que, est-ce qu'il va à l'église pour se consoler?
Eh oui.
Non, c'est qu'il dit, il déteste Dieu. Comment est-ce qu'on peut aimer ce Dieu qui m'a donné tant de douleurs?
Eh oui.
Donc, c'est un Italien un peu, c'est-à-dire qu'il est croyant. Mais il va jamais à l'église. Mm-hmm. Donc, ce qui pourra expliquer ses relations compliquées avec l'église catholique.
On en dira un mot tout à l'heure.
Il vient de Modène, donc qui est rouge
et qui est communiste
et qui est très anticlérical.
Voilà.
Et de ce point de vue-là, il est bien de sa région dans ses rapports à la douleur, à l'intercession de l'Église, etc.
Et d'ailleurs, Alberto il parle Toscano. Le dialecte de sa région.
Mais oui.
Quand il parle dans son usine, même tard, dans les années 80, 90, il parle le dialecte émilien. Il adore. C'est encore un révélateur de son lien particulier avec son territoire. Et qu'est-ce que vous faites? Il dit « ça fait ». Qu'est-ce que nous faisons? Il dit sa femme. C'est le dialecte de l'Émilie-Romagne.
Comme on est en Italie, Alberto va parler un peu de look et de style, parce que c'est important en Italie, le look et le style. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble Enzo Ferrari, sur la fin de sa vie, c'est un monsieur un peu chenu, les cheveux blancs, très très beau. Il a des lunettes noires tout le temps. Il porte des lunettes de soleil, voilà, très noires, des impairs beiges. Il a un charisme très froid, hein, Alberto. On dirait Jean Gabin dans Le Pacha. Il a un côté un peu, presque même, parfois un peu dictatorial. Il fait peur un peu.
On l'appelle le dictateur et il dit si être dictateur signifie demander aux autres de faire leur devoir jusqu'au bout, alors oui, je suis un dictateur. Mais ce que Fabien a dit est très juste, il a été très marqué par la mort de son fils en 1956. Il adorait son fils. Il a d'ailleurs réalisé une voiture qui s'appelle Dino, qui est l'une de ses voitures les plus célèbres. Le nom à la fois de son frère mort dans la Première Guerre mondiale et de son fils.
Oui. Hein. Les deux Dinos sont morts.
On l'a vu parfois pleurer tout seul quand il voyait un enfant qui, à son avis, lui rappelait physiquement
son fils. Oui.
Et vraiment, il adorait son fils. Après, il dit lui-même, après la mort de mon fils en 1956, je suis jamais entré dans une salle de cinéma ou dans un théâtre. Tellement il a choisi de vivre une vie retirée. Et ses lunettes noires ont été quelque part le rideau
deuil.
Derrière lequel il y a eu
son
deuil et sa tristesse. La tristesse, il l'a transformée en détermination, volonté de gagner. Volonté d'affirmer son entreprise sur tous les marchés internationaux.
Dans les années 70, Fabien, Ferrari répétait à l'envi « Je n'ai jamais été un grand constructeur, je reste un artisan provincial ». Certes, néanmoins, c'est un grand patron d'industrie. On a appris depuis qu'il avait des méthodes parfois un peu douteuses. Il espionnait, par exemple, tous ses collaborateurs dans son usine par un espèce de système téléphonique où vraiment il épiait chaque conversation. Voilà, c'est aussi un patron un peu tyrannique. C'est à la fois un grand capitaine d'industrie, c'est une réussite, c'est aussi une sorte de tyran domestique.
Oui, totalement. Il ressemble parfaitement à l'Italie, la troisième Italie, celle qui fait le miracle économique. C'est-à-dire l'Italie centrale de la plaine du Pô. Vous avez ces entreprises familiales qui font de la sous-traitance pour les grandes industries de Turin ou de Milan, dans le textile par exemple, avec des ouvriers très qualifiés, où il y a beaucoup de savoir-faire. Et donc lui, c'est exactement ça. Alors, par exemple, à Modène, hein, il y a d'autres entrepreneurs dans le domaine du sport. C'est les frères Panini.
Ah oui, bien sûr. Vignettes.
Voilà, les figurines.
Les albums et les figurines Panini.
Et c'est une toute petite entreprise. Alors, le problème, en fait, de Ferrari, c'est que c'est pas une entreprise familiale. C'est la taille est intermédiaire. C'est pas une grande entreprise, mais c'est pas, il peut pas les gérer comme le pater familias surveille la famille, qui est aussi la cellule de production économique. Mais finalement, quand il espionne ses ingénieurs au téléphone, bah, c'est un peu comme un père qui surveille ses enfants adolescents à 16-17 ans. Et il y a du paternalisme. Hein. Il dit toujours que quand quelqu'un dans la famille de ses ouvriers est malade, il envoie son médecin personnel. Donc c'est du paternalisme classique de l'industrie automobile. Pour ça, le passage à la Fiat en fait va lui envoyer... Comme il voulait tout contrôler, quand on a une entreprise de plusieurs centaines de salariés et qu'on ne délègue pas, à un moment donné, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'il voulait tout faire lui-même. Et c'est pour ça aussi que le passage à la Fiat, la prise de contrôle par la Fiat va l'aider à se concentrer sur la course.
Alors, on a entendu dans cette émission qu'il détestait Dieu, qu'il n'allait pas à l'église. Malgré tout, il était croyant. Et alors, voilà qu'en juin 1988, quelques semaines avant la mort d'Enzo Ferrari, le vicaire du Christ, Jean-Paul II, se pointe à Maranello, dans les usines Ferrari, pour bénir les Formule 1. Fabien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'Église, l'Italie vaticane, veut récupérer Ferrari? C'est pas rien, un pape qui vient bénir les Formule 1 d'Enzo Ferrari. C'est quoi le symbole, Fabien Chambaud?
L'Église a toujours été accueillante à la modernité, c'est-à-dire que cette nouvelle Italie, grande puissance industrielle, est catholique. Donc il y a un rapport qui est très bienveillant vis-à-vis de la voiture. Donc par exemple, quand on inaugure l'autoroute du Soleil, la Milan-Naples en 58, il y a l'évêque d'Arezzo qui vient bénir la nouvelle autoroute. En 58 aussi, il y a 500 Fiat Cinquecento qui sont bénis devant le Colisée à Rome. Alors si un jour vous allez à Rome, allez au sanctuaire du Divino Amore, donc qui est au sud de la capitale, où vous avez des hangars où sont, par exemple, le casque de moto qui vous a évité de mourir dans un accident de voiture, vous l'offrez à la Vierge en remerciement de vous avoir protégé. Vous avez créé un nouvel hangar récemment pour les airbags, etc. Et donc tout ça est pris en charge par le clergé. Ce qui veut dire que finalement, que Jean-Paul II bénisse ses voitures, ça s'inscrit dans cette logique et c'est pas étonnant. En revanche, ce qui l'est plus, c'est que ce soit si tardif. Et dans l'extrait que vous avez monté de Francesca Isidori au début, où l'Osservatore Romano parlait d'un moderne Saturne qui dévore ses enfants, donc ça fait référence à toutes les morts de pilotes, il y a aussi qu'il n'est pas pratiquant, qu'il a une double vie, c'est-à-dire qu'il a deux femmes,
il a un fils caché
et au vu de tout le monde à Modène, donc c'est pas un bon catholique. Saturne, c'est une manière de le renvoyer vers un monde païen. Et en même temps, en 88, c'est à quelques mois de sa mort, c'est une sorte d'extrême-onction automobile. C'est
consécration.
Le pêcheur revient dans le droit chemin, on lui accorde.
C'est vrai que c'est vrai que ça fait presque même seigneur médiéval qui veut racheter ses fautes et le pape vient l'absoudre en fait. C'est très juste. Le 14 août 1988, donc Enzo Ferrari meurt à Modène, donc chez lui, dans son territoire. Comment a réagi l'Italie, Alberto Toscano? Est-ce que c'est évidemment un choc national, j'imagine, mais est-ce que toute l'Italie fait union sacrée ou est-ce qu'il y a aussi une Italie indifférente à la mort de Ferrari?
Non, l'Italie a célébré le mythe de Ferrari, il a toujours été capable de provoquer la sympathie des autres. Et par exemple, à Maranello, il y a eu longtemps un maire communiste, ensuite il y avait un maire de l'ex-parti communiste, devenu parti démocrate de la gauche, et tout ça. Et il a toujours su gérer une relation privilégié avec ce maire, même si parfois il y a eu une relation un peu comme Peppone Don Camillo à Brescello, qui n'est pas loin de Maranello d'ailleurs. Donc il y avait quand même des contrastes, mais il y avait toujours cette capacité de rassembler dans les moments difficiles, comme Peppone et Don Camillo, qui savent aller ensemble aider la population quand il y a les crues du pot et quand il y a un besoin social qui dépasse les querelles quotidiennes. Donc il avait cette perception humaine et sociale qui était derrière ses lunettes noires, était derrière son caractère dur, qui était derrière ses habitudes de dictateur autocrate dans son usine. Mais il avait un cœur et un grand cœur.
Fabien Archambault la firme va survivre à la mort de son créateur, notamment avec une période de gloire au début des années 2000. Hein. Ferrari va tout gagner, il y aura 5 titres d'affilée de champion du monde, de pilote, notamment avec Michael Schumacher, le pilote allemand, ça on s'en souvient tous évidemment, il régnait sur les circuits mondiaux. Est-ce que ça fait écho à l'Italie du début des années 2000, ce prestige? Est-ce que ça rencontre une société qui peut être à la fois à l'époque, peut-être dans la réussite, dans la sérénité? Est-ce que ça fait écho, cette séquence Ferrari du début des années 2000 avec la société italienne?
En tout cas, c'est comme ça que les Italiens le lisent.
Ah oui.
C'est comme pour le football, à partir des années 60, ou le cyclisme, dans les années 50, c'est devenu une institution, Ferrari. Et donc un baromètre où on peut juger de l'état de la société italienne. Est-ce que l'Italie est performante? Est-ce qu'elle est efficace? Et évidemment, on lit les victoires de Ferrari comme le fait que tout va bien dans le pays. Et ça renvoie à cette popularité extrême. Hein, en Italie, même quand on ne suit pas vraiment l'automobile, le dimanche, quand il y a un Grand Prix, on demande qu'a fait la Ferrari.
Eh oui, qu'a fait la Ferrari. Allez,
un peu comme qu'a fait la Juventus.
Oui, ou c'est la question.
Et quand Ferrari gagne, le curé de Maranello fait sonner les cloches.
C'est extraordinaire. Alberto, vous venez d'écrire un livre consacré aux Italiens qui ont fait la France. Hein, ça veut dire Catherine de Médicis, Léonard de Vinci, Pierre Cardin, c'est chez Armand Collin, Tiamo Francia, je t'aime France. Qu'est-ce que vous auriez envie d'écrire, vous, l'écrivain, sur Enzo Ferrari? Si vous deviez faire un livre qui pourrait être une sorte d'équivalent à celui-ci.
Ben, on a commencé cette émission avec François Sagan qui a manifestement écrit « Bonjour vitesse ». Mais j'ai envie de penser à le côté modernité sociale d'une entreprise nouvelle où tout le monde aime ce qu'on produit.
Fabien Archambault, pour terminer, on imagine assez bien que les nationalistes italiens aujourd'hui auraient envie de récupérer l'héritage, la mémoire, la vie de ce petit Italien devenu une légende mondiale. Voilà, c'est Forza Italia, nous sommes les Italiens. Mais ce qui est amusant, c'est que quand on regarde l'histoire de la Scuderia, c'est que c'est aussi un imaginaire européen, parce que certes le moteur est italien, mais les grands titres remportés par la Scuderia sont par des pilotes européens. Il n'y a pas de grands titres sans Alain Prost, sans Michael Schumacher, sans Alonso, sans Niki Lauda. À dire que effectivement c'est italien, mais l'histoire...
Et Alesi qui a gagné.
Et Alesi, mais bien sûr Jean Alesi. Mais l'histoire de la Scuderia, elle est européenne. Il y a un moteur italien, il y a un patron italien, mais il y a des pilotes européens, et ça c'est un enjeu mémoriel sans doute pour nous tous.
Oui, alors en plus ça renvoie à une tradition en Italie, enfin qui renvoie à la tradition médiévale, hein, où on faisait venir le comte d'Authiere et, ou le podesta qui était extérieur à la ville pour arbitrer les conflits à l'intérieur de la ville. En Italie, on est très content quand on fait venir les meilleurs de l'étranger. Mmh. C'est un honneur pour la Scuderia d'accueillir Alain Prost ou Jean Todt.
Et on ou Platini à la Juve.
Voilà, on retrouve là exactement la même chose dans le football, où il n'y a jamais de polémique sur les étrangers. Au contraire, c'est quelle fierté d'accueillir les meilleurs chez nous. Et ça veut dire qu'on est capable de leur donner les moyens d'exercer leur talent au meilleur niveau.
Et
donc c'est finalement leur gloire rejaillit sur la Scuderia.
Merci à vous deux d'être venus ce soir. C'était un plaisir de vous écouter tous les deux. Je rappelle que vous pouvez lire Tiamo Francia, l'histoire de ces Italiens qui ont fait la France, c'est signé Alberto.
Et de beaucoup de migrants italiens en France.
Absolument.
De millions de migrants italiens.
C'est signé Alberto Toscano chez Armand Collin. Et puis précipitez-vous sur tous les livres de Fabien Archambault. C'est toujours un plaisir de lecture. Merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute car voici le Give Me Five de Joey Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Alors ce soir c'est un peu mes étrennes,
eh hein, oui.
Mon cadeau de bonne année. Je vais vous parler d'un film de bicyclette, on va vraiment dire bicyclette, d'un film de bicyclette que j'adore, un vieux film un peu trop méconnu à mon goût, ça s'appelle 5 tulipes rouges, c'est un film de Jean Stély, un film de 1949.
Et alors pourquoi est-ce qu'il faut voir ce film Joy?
Parce que je vous le dis.
Déjà oui.
Les gens font ce que je dis.
D'accord.
Mais surtout parce que c'est un polar qui se passe pendant le Tour de France. Alors déjà c'est un bon pitch. En gros, lors du Tour 1948, 5 coureurs sont retrouvés assassinés. Et à chaque fois, une tulipe rouge est retrouvée à côté du corps du malheureux cycliste.
Un joli pitch.
Pas mal. Et alors d'étape en étape, l'inspecteur Honoré Ricoul, c'est son nom, alors commissaire de la PJ qui est chiant comme la pluie, hein, lui-même il le dit, j'ai jamais eu d'imagination chef, très, très chiant, ils doivent faire équipe avec Colonel. Colonel, c'est une femme journaliste à l'équipe. Et alors là, ça fait un bien beau duo pour une double intrigue.
Oui.
qui est le meurtrier et qui va gagner le Tour de France.
Donc c'est la première raison pour voir ce film. Il y en a une deuxième, évidemment.
Ah bah oui, c'est pour Colonel.
Ah oui,
Colonel. Il faut regarder ce film pour Colonel, la journaliste. Tout le monde la connaît, Colin.
Alors, Mouzingue, mais ma parole, t'as la moustache qui pousse. Va falloir commencer à se méfier. Hein? Qui est-ce?
Bah, c'est Colonel. Ça te dit rien?
Non.
Ah, on voit que t'es jeune dans le métier. Mais Colonel, Colonel, la journaliste, tu connais pas?
Je te dis que non.
Il n'y en a pas deux qui s'y connaissent comme elle dans le vélo. Elle est partout. Elle a fait Bordeaux-Paris sur une moto pour suivre Carrier jusqu'au bout. Elle était avec Luzanne quand il a gagné en Australie l'année dernière. Elle s'est envoyée tout le tour d'Italie pour voir gagner Grandini. Ah, c'est quelqu'un, Colonel.
Oh, moi, les femmes, tu sais, j'en suis revenue.
Ouais, il y a deux, trois phrases comme ça, mais non, c'est plutôt féminin, je vous assure. Donc c'est elle, Colonel, qui va driver l'enquête et qui va aider Ricoul à démasquer l'assassin du tour. Et alors, Colonel, vraiment, c'est la star du film. Elle boit, elle clope, elle impressionne, elle dame le pion à tous les mecs. Et puis c'est la mémoire vivante du cyclisme et du tour. Alors elle connaît tous les coureurs par cœur, elle les embrasse, elle les appelle par leur prénom et ça va vraiment grandement l'aider pour l'enquête, sans doute.
Mais oui.
Et Colonel est joué par l'actrice Suzanne Dehely. Et Suzanne Dehely, c'est aussi elle qui a créé, donc composé et écrit, la chanson.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la morora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le soivon pour l'asthme.
C'était la voix de Suzanne Dehely, voilà ma colonelle. Et alors Suzanne, elle était aussi championne de France d'échecs en 1943. Non mais c'est hallucinant. Et si vous regardez le film La nuit est mon royaume, vous verrez que c'est elle qui joue aux échecs avec Jean Gabin.
Et oui.
Un sacré brin de femme, hein, cette Suzanne. Et alors dans 5 tulipes rouges, vraiment, elle porte un chignon, un imper, un tailleur. Ou alors, vous voyez, un costume, une gabardine, très mec. C'est une vraie féministe, c'est incroyable.
Et alors qu'on est en 1948, ouais. C'est vraiment un film d'époque.
Ah bah oui, ça c'est une autre raison, c'est vraiment pour ça qu'il faut le voir. On est en pleine période de Clouseau, Guitry, Suzy Delair. Les personnages, ils parlent tous comme ça, tu vois, Colin, un petit peu. Ah mon vieux, j'adore cette gouaille, il y a le mot canaille. Le ton, les expressions, genre, il grimpe comme un fer à repasser. Ça met des trucs. Mais les dialogues ont été écrits par Charles Exbriac, c'est un écrivain de polar, voilà, une très belle plume. Donc vraiment, ça vaut le coup.
Et puis alors, les 5 tulipes rouges, c'est un vrai hommage au cyclisme, au coureur du Tour, Joy.
Ouais, et à l'Europe. Parce qu'on entend aussi parler italien, allemand, flamand. Et alors, il y a des portraits en creux de tous les pays. Pendant que les coureurs italiens ou les belges se reposent ou s'entraînent, bah, les Français, eux, ils se chicanent et ils se battent. Parce que non, ils veulent pas courir pour leur leader, parce qu'ils l'aiment pas. Et à travers ces meurtres, c'est le Tour et l'esprit du Tour qu'on essaye de tuer. Mais Colonel est là. Hein, elle veille au grain, vous verrez.
Et enfin, Joy, il faut le dire que ce film a été tourné pendant le Tour, ouais. En 1948, le vrai Tour de France.
Ouais, vraiment. Donc ça qui est super aussi, c'est qu'il y a plein de plans de courses dans les villes de France. Donc on est au Vélodrome de Bordeaux, on est à Paris. Donc on voit toutes les rues parisiennes. On voit par exemple les bureaux du journal L'Équipe, ce qui est assez marrant. Ceux de France Soir, il y a le Parc des Princes, le Palais Royal. Mais alors tout ça avec le public, les camions publicitaires, vous voyez, vintage. Voilà, tout ce qu'on aime. Puis alors la qualité de l'image, je vous promets, est hallucinante. Faut vraiment regarder ce film.
Et donc ce film, c'est gratuit, puisqu'on peut le voir sur Internet, 5 tulipes rouges. Et en bonne qualité d'ailleurs. C'est une très bonne qualité sur YouTube. Et on peut aussi l'avoir en DVD, évidemment.
Ouais.
Merci Joy, et à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 18e émission de notre saison 5 a été coachée ce soir par l'incontournable H2M, bien sûr, Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Nicolas Delmas. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, bien sûr, mais aussi sur franceinter.fr pour catcher le podcast. On se retrouve dimanche, bien sûr, et on commencera la nouvelle année avec une question essentielle. Est-il grave d'aimer le football? Des sociologues, des philosophes, des écrivains, des chorégraphes et des comédiens ont tenté d'y répondre dans un documentaire écrit et produit par Hervé Matou. Alors rendez-vous dimanche prochain avec Monsieur Football. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente fin d'année sur Inter. Salut et fraternité.